France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. 5 ans après le premier confinement, à quoi ressemble ce lien si particulier? Quelle amitié? Au fond, pourquoi lui ou elle et pas tel autre? Pourquoi est-il devenu difficile de maintenir des liens d'amitié? Quelles sont les frontières entre l'amour, le sexe et l'amitié? Pourquoi l'amitié peut nous aider à nous émanciper? Petit panorama de l'amitié en 2025 avec la complicité du 1 Hebdo. Nos invités attendent toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ainsi que sur l'appli Radio France. Vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebéi.
Vous avez peut-être des millions d'amis sur Facebook, mais avoir des amis sur Facebook, c'est comme être millionnaire au Monopoly. C'est du vent. Vous savez quoi? Moi aussi, j'en ai des amis. J'en ai 3. À Dijon. On se voit tous les mercredis soirs pour faire un billard et on n'étale pas sur la place publique.
Extrait de Camping 3. Bonjour Alice Rebaud, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde et l'autrice de Nos puissantes amitiés. C'est publié à La Découverte. Bonjour Olivia Benhamou.
Bonjour Annie.
Vous avez pris un abonnement cette semaine dans Grand Bien Vous Fasse.
Oui.
Vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute et sexologue. Dernier livre paru au Cherche Midi, Petit guide d'entrée dans la vie sexuelle. Avec vous, on reviendra sur la porosité entre l'amitié et la sexualité, notamment dans les jeunes générations. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Directeur, vous aussi vous avez pris un abonnement, vous étiez là hier au studio 104, c'était formidable avec tous ces jeunes réunis en cette semaine de la presse et des médias. Vous êtes le directeur des rédactions du 1 Hebdo et en kiosque cette semaine un excellent numéro, Amitié, qu'est-ce qui nous lie. Bonjour François-Mickey Marty.
Bonjour.
Vous êtes président du groupe Les Temps Nouveaux et vous êtes le co-auteur de l'enquête Les Nouvelles Amitiés pour la Fondation Jean Jaurès. Et ça tombe bien, Jérémy Pelletier est là, bonjour.
Bonjour mon cher Ali.
Le co-directeur de la Fondation Jean Jaurès qu'on retrouvera pour sa chronique Les Français Mode d'emploi et félicitations au nouveau papa que vous êtes, mon cher Jérémy.
Eh ben, c'est gentil. Merci beaucoup, ravi de revenir en vie ici.
Quelle est la particularité de cette étude qualitative, François-Mickey Marty, consacrée aux nouvelles amitiés?
Oui, c'est une étude réalisée à partir, pour l'essentiel, de récits de vie.
C'est-à-dire
qu'on est allé écouter les gens qui racontent leur vie. Une étude Bloomtime pour la Fondation Jean Jaurès, en effet, qui montre, et c'est l'un des points essentiels, un énorme besoin d'amitié aujourd'hui en France, en 2025. Besoin d'amitié parce que il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, il y a beaucoup de gens qui se sentent en déclassement, en difficulté croissante. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils sont vulnérables et donc beaucoup de gens qui ont besoin de parler à quelqu'un en confiance, en confidence, à tout instant, du jour, parfois de la nuit. On a une dame qui nous a dit « moi, quand je vais pas bien, j'ai besoin de parler à quelqu'un ». Voilà. Et la grande confirmation, j'allais dire découverte, mais on pouvait s'en douter un peu, mais ça, en tout cas, c'est une grande confirmation aussi, c'est que c'est pas facile de trouver quelqu'un à qui parler. Donc, on va en parler, bien entendu, mais donc, trouver de vrais amis, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du mal, près d'un Français sur deux, qui dit « j'ai du mal à trouver des vrais amis », parce que ça se construit difficilement.
Et la crise sanitaire que nous avons connue il y a 5 ans a percuté ces liens d'amitié, Jérémy Pelletier.
Oui, absolument, ça les a percutés, notamment, effectivement, les amitiés au sein de la jeune génération, parce que c'est de celle-ci en fait dont on parle quand on s'intéresse à ce qui est venu percuter en termes d'amitié aujourd'hui la société française. Un élément malgré tout rassurant par rapport aux effets du confinement et de la crise sanitaire, et c'est l'une des raisons pour laquelle aussi on avait fait cette étude avec François-Mickey Marty, c'est que finalement quand on interroge les gens sur amitié réelle, amitié virtuelle, le match est assez plié en faveur de l'amitié réelle. C'est-à-dire, je pense qu'on en parlera, mais c'était l'élément quand même très rassurant dans l'enquête. En gros, quand on leur demande est-ce que des amitiés, justement sur les réseaux sociaux, des amis Facebook, comme France Dubosc le disait à l'instant, est-ce que il s'agit là de vrais amis? Est-ce que vous arrivez à concrétiser des amitiés virtuelles en amitiés réelles? Finalement, très peu de Français nous citent cela. Et donc finalement, il y a encore quand même une valorisation, très importante valorisation de l'amitié dans la vraie vie plutôt que l'amitié numérique.
Vous l'avez vu, cette amitié percutée par les divers confinements, par la crise sanitaire, auprès des jeunes que vous suivez au service universitaire de médecine préventive de l'université de Rouen, Olivia Benhamou.
Oui, bien sûr, effectivement.
effectivement, pendant le Covid, ça a été vraiment terrible, l'isolement. Beaucoup d'étudiants étrangers qui étaient loin de leur famille, plus aucun, effectivement, lieu de rencontre. Et pour certains, des tentatives de sortir de cet isolement en faisant des rencontres via des applis et en se rendant directement chez des inconnus, puisque plus aucune rencontre dans les lieux publics n'était possible. Donc, avec des prises de risques, des mises en danger et une altération de l'image de soi du fait de la disparition de ces possibilités de rencontres. Bon, heureusement, finalement, on a aussi beaucoup développé les visios, que ce soit dans nos activités professionnelles, mais on a eu toute cette période d'apéro entre amis en visio. Je pense que ça a modifié même les relations intrafamiliales. Les groupes WhatsApp, je pense qu'ils ont explosé aussi à ce moment-là. Enfin, on a essayé de trouver des moyens de garder des liens. Et aujourd'hui, je pense que, rétrospectivement, les liens ont survécu, mais il reste quand même des traces assez profondes de cet isolement.
Julien Bisson, dans votre numéro du 1 Hebdo, on a un excellent entretien de l'anthropologue Robin Dunbar, qui vous dit que c'est très difficile à définir l'amitié. Il a toutefois une bonne définition. Les amis sont des personnes toujours prêtes à vous aider.
Oui, c'est vrai que c'est très intéressant, cette définition de l'amitié, parce qu'elle est toujours compliquée. On a toujours l'impression que l'amitié se définit presque en négatif, en opposition à d'autres relations, notamment avec l'amour, alors même que on pourrait penser qu'il y a une forme de continuum, au contraire, entre l'amitié et l'amour. On pourrait penser que l'amour romantique pourrait être un aboutissement final de l'amitié, ou au contraire que l'amour romantique pourrait être une amitié avec la sexualité. Il y a beaucoup de façons de l'approcher qui sont très différentes et qui permettent justement d'avoir une relation presque élastique. La relation amicale, c'est aussi défini par une forme de liberté. C'est ce qui va aussi la différencier d'autres formes de relations que pourraient être les relations amoureuses, les relations familiales, les relations professionnelles, et qui peuvent lui donner une forme aussi de préciosité dans notre situation.
François-Mickey Marty, dans votre étude, beaucoup de vos participants vous disent qu'une vraie amitié, eh bien, c'est celle qui résiste à l'épreuve du temps. La confiance, la fiabilité, ça reste des piliers essentiels de l'amitié.
Ça, c'est passionnant. Enfin, c'est passionnant parce que c'est très important, en effet, pour la plupart des gens que l'on a écoutés. Et c'est difficile parce qu'on est dans une société où les choses changent, etc. Et donc, ça conduit à constater que l'amitié, c'est un peu un négatif des pathologies de notre société. On a d'autant plus besoin d'amitié que, on veut s'inscrire, c'est le point que vous évoquez, dans la durée, quand on est beaucoup sur de l'éphémère. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui disent l'amitié, c'est aussi de la confiance. Et on est dans une société de défiance. Et puis troisièmement, il y a beaucoup de gens qui disent l'amitié, c'est de l'indulgence. Ça veut dire qu'on ne va peut-être pas critiquer son ami tous les jours. Et on a une société qui paraît souvent violente. Donc cette amitié-là, elle est vraiment importante quand c'est une amitié profonde, on y reviendra peut-être. Parce que notre société, d'une certaine manière, va mal. Et pour beaucoup de gens, l'amitié, c'est un havre de réconfort.
Et une amitié authentique nécessite donc du temps, de la patience. Et c'est une relation qui évolue évidemment progressivement. Alice Rebaud, vous faites de l'amitié un sujet éminemment politique, mais au sens noble du terme.
Oui, absolument, avec cette idée justement que dans cette période particulièrement violente, difficile, l'amitié peut aussi être un pilier, un espace sur lequel à la fois penser des espaces de soins, du prendre soin. Moi, c'est ce dont m'ont beaucoup parlé les personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont parlé de leurs amitiés. C'est tout le soin qui se partage dans ces relations-là, et notamment pour les femmes, qui la plupart du temps passent plutôt du temps à donner plutôt qu'à recevoir du soin, que ce soit dans la famille, dans le couple ou même dans la sphère professionnelle, elles reçoivent un soin qui est particulièrement précieux de la part de leurs amis. Et puis aussi parce que je crois qu'en interrogeant un peu la place de l'amitié dans nos sociétés, on s'interroge globalement sur toute l'organisation sociale de celle-ci, les liens sur lesquels on nous autorise à nous reposer ou non, qu'est-ce qui est mis au centre, plutôt la famille, le couple, avec pas forcément des conséquences positives de ça, parce qu'on le voit aujourd'hui, la manière dont est construit nos sociétés crée, façonne de la solitude. On a un Français sur quatre aujourd'hui qui se sent seul, selon la dernière étude d'ampleur sur la solitude de la Fondation de France.
Et Alice Rebaud, j'imagine que vous partagez ce que nous dit l'anthropologue Robin Dunbar. L'amitié a pour fonction de créer, à travers des liens émotionnels très intenses, une communauté cohésive qui agit comme un tampon contre les attaques du monde extérieur.
J'aime bien cette idée de la communauté. Ça revenait beaucoup aussi sur le terrain quand je suis allée voir ces personnes qui essayent de repenser une manière de remettre l'amitié au centre de la vie, de ne plus en faire un parent pauvre des relations sociales. Ils me parlaient de ce qui se jouait aussi dans le collectif, à la fois des collectifs militants, par exemple, mais aussi des collectifs en termes d'habitat pour les personnes qui repensent l'habitat, et de ce qui se joue dans le fait d'apprendre aussi à vivre ensemble, c'est-à-dire à vivre en commun. Et je crois qu'on gagnerait beaucoup aujourd'hui à prendre justement de, à la fois de ces utopies un petit peu qui sont en train de se constituer sur le territoire, de ces utopies amicales, et puis même de tout ce qu'on expérimente nous dans nos amitiés, de ce lien élastique, de ce lien qui est une forme de lien de la métamorphose, de la découverte, et un lien de l'apprentissage de l'être ensemble.
Et Alice Rebaud, vous écrivez une chose qu'on n'entend pas souvent, vous écrivez dans votre livre que l'amitié est une relation souvent passée sous silence, peut valoriser, que ce sont des liens sacrifiables alors qu'elle est fondamentale dans l'histoire de l'évolution.
Absolument, c'est un lien qui est considéré notamment quand on arrive à l'âge adulte un peu comme un lien qui doit être secondaire, qui ne doit être que dans le décor finalement de nos vies. On ne peut pas penser toute notre vie autour de l'amitié ou passer énormément de temps avec ses amis une fois adulte. On est considéré un peu comme un adulte manqué, un adulte qui n'a pas tellement grandi. Et pourquoi ? Parce qu'on nous dit bah voilà, une fois adulte, il faut se ranger, il faut se caser et il faut davantage passer de temps, passer mettre de l'énergie dans d'abord la quête de l'amour romantique, puis la création et puis l'entretien de la famille qui serait considéré voilà, comme l'espace de bonheur premier, l'aboutissement d'une vie, quitte à délaisser sur le chemin nos relations amicales qui pourtant, je crois, peuvent avoir une place très très importante dans nos vies et puis une importance, un espace d'émancipation et de soins particulièrement important.
Olivia Benamou.
Oui, j'ai envie de rebondir sur ce que vient de dire l'auteur
Alice
Rebaud, sur le fait que en effet, enfin, l'amitié, ça fait partie des expériences précoces relationnelles de la vie de chacun. Et c'est-à-dire que ça commence très tôt. D'abord, on parle évidemment des relations entre les parents et les enfants. On parle moins des relations de fratrie, mais les relations de fratrie sont un peu c'est un peu la préhistoire des relations amicales. D'ailleurs, dans les relations amicales, il y a souvent un sentiment fraternel qui peut naître. Et d'ailleurs, c'est avec nos amis à l'école maternelle qu'on commence à jouer au docteur. Ensuite, quand on grandit un petit peu, à l'adolescence, les amitiés très fortes peuvent permettre des rapprochements physiques entre filles ou entre garçons. Il y a beaucoup de garçons qui peuvent raconter des jeunes adultes et même des adultes beaucoup plus âgés qui ont des souvenirs, par exemple, de découvertes de premiers émois sexuels partagés avec leurs amis, des masturbations partagées. Ils se font découvrir la pornographie. On sait par des études sociologiques que le premier informateur d'un adolescent sur la vie sexuelle, c'est son meilleur ami. Et chez les filles, c'est un peu la même chose. Donc, simplement pour dire que l'amitié, c'est un terrain, c'est un cadre sécure et rassurant qui permet d'expérimenter les premières expériences de vie, finalement. Enfin, je pense que c'est important de considérer que c'est fondateur dans la structuration de la personnalité de chaque individu.
Julien Bisson.
Oui, il y a aussi cette idée que, la place de l'amitié dans nos vies est à la fois essentielle et en même temps découragée par les institutions publiques. Il est très difficile aujourd'hui d'acheter une maison avec des amis. Il est impossible de déclarer ses impôts avec un ami avec qui on vivrait. Il est difficile d'avoir parfois accès à l'hôpital pour un ami ou pouvoir peser sur les décisions lors d'un enterrement. Tout est construit autour du couple, tout est construit autour de la famille, et cela décourage en effet la façon de pouvoir, les envies qu'on pourrait avoir de créer une autre forme de communauté dans nos vies.
Jérémy Pelletier, quel est le menu des Français mode d'emploi ? Votre chronique vers 10h40.
Alors on va parler d'un sujet que vous aimez bien, Ali, et dont on parle souvent ici, c'est de boissons. Mais pour une fois, on ne va pas parler du rapport des Français à l'alcool, à la bière ou au vin, mais on va parler du rapport des Français à l'eau, et notamment à l'eau en bouteille, parce que, sachez-le, c'est la journée mondiale de l'eau ce samedi, et on va voir pourquoi la France est l'un des pays où on consomme le plus de petites eaux en bouteille.
France Inter.
On devrait faire des phrases de drague pour les potes.
Grand bien vous fasse.
Genre par exemple, des fois j'aimerais bien genre m'approcher et dire excuse-moi, ton père il aurait pas couché avec ma mère parce que t'es comme un frère pour moi.
Ali Rebaï.
Quoi ?
À quoi ressemble l'amitié en 2025, petit kaléidoscope ce matin, en compagnie du 1 Hebdo, notre complice ce matin. Alors Julien Bisson, vous êtes donc le directeur des rédactions du 1 Hebdo. Il existe plusieurs niveaux d'amitié. C'est comme les cercles que forme un galet jeté dans l'eau, vous dit l'anthropologue Robin Dunbar. Nous avons plusieurs cercles d'amitié. Le tout premier cercle comprend un ami et demi. Alors pourquoi oui. un ami et demi? Parce que c'est en moyenne voilà. un pour les hommes et deux pour les femmes.
Oui, donc voilà, on n'a pas coupé un ami en deux. Mais en effet, déjà, il y a une petite différence homme-femme. Les hommes ont un ami le plus proche, vraiment le meilleur
moyenne,
ami,
hein.
en moyenne évidemment, et les femmes plutôt deux. Et après, il étend ses cercles, en effet, avec des relations qui sont de plus en plus distendues. Ensuite, il y a le cercle des cinq, qui est presque le plus important. Il explique que le cercle des cinq amis les plus proches, il est fondamental, même pour notre santé mentale. Si on en a beaucoup moins ou beaucoup plus de ses amis très proches, eh ben, on va avoir plus de difficultés et on peut avoir des problèmes de santé mentale ou de dépression sur le long terme. Ensuite, après les cinq, il y a les 15, puis le groupe des 50. Le groupe des 50, c'est ce qu'il appelle le groupe bar mitzvah, mariage, enterrement. Voilà. Ça vous donne une bonne idée. On voit à quoi on fait référence. Et puis après, le groupe des 150.
Ah, c'est le fameux nombre.
Le nombre de Dunbar. Il a donné son nom à ce nombre, le nombre des 150. Ça, c'est la limite cognitive du groupe de personnes avec lesquelles un individu peut avoir des relations stables et réciproques.
Ouais.
Et ensuite, il y a un réseau encore plus large, là c'est le réseau social. Il dit ça peut croire jusqu'à 5000 personnes. C'est le nombre de personnes que nous sommes capables de reconnaître et dont nous connaissons le nom. Mais il ne s'agit pas d'amitié forcément réciproque.
Il est donc un peu absurde, François Mickey Marty, vous êtes président des Temps Nouveaux, de revendiquer 200, 500, 1000, 5000 amis sur les réseaux sociaux. C'est un peu absurde d'appeler ça des amis.
Alors oui, le terme bien sûr est trompeur et personne ne s'y trompe d'une certaine manière. Parce qu'en effet, ce qu'on voit à travers nos récits de vie, là, c'est que les gens sont très critiques au fond sur les amitiés entre guillemets créées par les réseaux sociaux. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose en vous écoutant là, tout à l'heure au 19e siècle. Parce que... Avant le 19e siècle, l'amitié était extrêmement saluée. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, ne vous inquiétez pas. Mais enfin, Aristote disait que l'amitié, c'est la vertu. Saint Augustin, je cite, disait « l'amitié, c'est le reflet de l'amour divin ». Montaigne, bien sûr, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et puis patatras, après la Révolution française, je ne sais pas ce qui s'est passé. Balzac, Maupassant, Tourguenieff, tous les trois, ils ont écrit des romans qui s'appellent « Les deux amis » et ça se passe très 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 mal. Voilà. Donc on ne dit pas probablement assez, suffisamment, que l'amitié peut être une vertu, peut être quelque chose de salutaire. Et il y a toujours, et c'est ce que nous disent les personnes que l'on a écoutées dans le cadre de ces récits de vie, un a priori critique, négatif, un doute. Et dès qu'un élément dans la relation confirme le doute... l'autre n'est-il pas signé à quelqu'un qui nous a dit « Au fond, je croyais avoir un bon ami et puis il n'était là que pour mon argent. » Voilà. Et donc, tout d'un coup, toute l'amitié s'effondre parce que fondamentalement, on a cette tentation du doute.
Julien Bisson.
Oui, ce qui se passe au début du 19e siècle, c'est le code civil napoléonien qui va aussi fonder le ciment de la civilisation autour du couple, autour de la famille, qui va, d'une certaine façon, empêcher les amitiés hommes-femmes, par exemple. Elles vont devenir beaucoup plus suspectes qu'elles ne l'étaient par le passé. Elles pouvaient encore exister auparavant. Elles deviennent totalement suspectes. Et il va fonder aussi le fait que tout va se construire, y compris les relations financière autour de la famille et plus du tout autour des amis.
Jérémy Pelletier, co-directeur de la Fondation Jean Jaurès.
Pour revenir sur ce que disait François s'agissant du doute, il y a toujours en effet un doute qui nous amène à nous interroger, est-ce que cette personne est vraiment mon ami? Est-ce que cette personne est vraiment l'ami auquel je pense? Et en fait, ce qui est très intéressant dans l'étude, c'est que en gros, les gens nous disent il faut un certain nombre de preuves pour que je puisse définir cet individu comme un ami. Et dans les preuves, l'élément qui est très important et pareil, qui vient en contre-coup de l'époque, c'est la disponibilité. Le terme qui revient beaucoup, c'est un ami, dans les critères en tout cas d'un ami doit être disponible H24, doit être disponible au milieu de la nuit si j'en ai besoin. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui revient beaucoup, c'est un ami doit être présent lorsqu'il se passe quelque chose d'important dans ma vie, de joyeux ou de grave. Et par exemple, dans l'étude, quelqu'un nous dit « je pensais que cette personne était mon ami, mais, et c'est un élément qui revient beaucoup, elle n'était pas présente à l'enterrement de ma mère, à l'enterrement de ma grand-mère, à l'enterrement de mon père. » La présence ou l'absence des amis ou supposés amis à des obsèques et à des enterrements, c'est un des éléments, en effet, qui revient beaucoup dans les critères qui font qu'un ami est un ami ou non.
Olivia Benamou, psychologue clinicienne.
Oui, je pense qu'on n'est pas tous égaux non plus dans nos rapports à l'amitié. J'ai lu il y a quelques années un livre passionnant sur les enfants uniques. Alors malheureusement, je ne me souviens plus de l'auteur, mais ce bouquin racontait que quand on est un enfant unique, on a tellement fait l'expérience précoce de la solitude que la place des amis dans notre vie est absolument centrale. Mmh. Et on se rend bien compte qu'en fonction effectivement des expériences de vie antérieures de chacun et des premiers modèles relationnels et styles d'attachement avec lesquels on a grandi, eh bien, on va attendre un certain nombre de choses de nos amis, que par exemple, je me souviens d'un patient justement qui me disait à quel point pour lui les amitiés étaient centrales, et il avait toujours le sentiment que les autres, qui comptaient beaucoup moins pour les autres, que eux ne comptaient pour lui, et qu'il y avait toujours un sentiment d'iniquité, d'injustice, d'ingratitude, voire de trahison. Et donc, en effet, je pense que c'est important pour comprendre ce qu'on attend de nos relations à nos amis, on peut se pencher sur justement la manière dont on a construit nos liens d'attachement. Et quand on a grandi dans des milieux très insécures, avec des adultes qui ont des réponses imprévisibles, eh bien, on est fragilisé, en fait. Et on supporte beaucoup moins bien quand enfin on réussit à créer un lien avec quelqu'un, que cette personne s'éloigne. Et on n'arrive pas à l'admettre et on n'arrive pas émotionnellement à le vivre et à l'accepter. Donc, c'est vraiment important. Parce que je pense qu'il y a énormément de différences inter-individuelles dans notre rapport à l'amitié.
Alice Rebaud, autrice de « Laisser nos puissantes amitiés ».
Oui, je trouve ça important de souligner qu'on n'est pas tous égaux finalement face à la création de liens et d'ailleurs notre position à la fois économique, sociale, etc. vient aussi beaucoup influer sur la possibilité de créer de nouvelles amitiés et puis de les entretenir. On voit bien que les personnes qui sont les plus touchées par la solitude sont les personnes qui sont notamment les plus éloignées de l'emploi, qui sont le plus en difficulté économique parce que quand on est extrêmement bien inséré déjà économiquement dans la société, on a plus de possibilité d'ouvrir nos cercles et puis donc de pouvoir créer des liens affinitaires plus poussés avec certaines personnes. Et puis aussi parce qu'on a parlé de la question du temps qui est vraiment centrale dans la possibilité de créer et puis d'entretenir des amitiés, ce temps qui est de plus en plus contraint. Mais il y a aussi la question du coût parce qu'aujourd'hui et notamment dans les villes, la manière de faire sociabilité est de plus en plus coûteuse, centrée autour de la consommation et on a de plus en plus de témoignages qui commencent à émerger, notamment depuis la crise du Covid qui est venue heurter les parcours professionnels et les parcours économiques des personnes. De plus en plus de personnes qui disent en fait, je n'ai plus les moyens de mes amis. Je n'ai plus les moyens de suivre mes amis quand on a eu un décrochage, par exemple, dans les capacités financières et où aller boire des coups, aller faire un resto très coûteux devient très compliqué. On peut avoir un peu une honte, un embarrassement qui fait que finalement, on va se mettre un petit peu en retrait et peut-être un petit peu moins sortir avec ses amis.
C'est pas souvent évoqué ce que vient de nous dire Alice Rebaud, Jérémy Pelletier.
Oui, mais c'est un élément très important et en effet, on le voit dans les transformations, par exemple, dans les façons aussi de faire la fête, pour le coup, de la jeune génération. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé dans cette émission.
Vous avez écrit un livre sur le sujet.
Absolument, régulièrement. Mais en effet, quand on parle de civilisation du cocon, quand on parle d'une jeune génération qui a eu tendance à se recroqueviller, qui a eu tendance à se sédentariser et qui a eu tendance, en effet, à délaisser la fête publique pour soit la fête à la maison, soit la plus fête du tout, c'est aussi souvent pour des raisons financières et pour des raisons économiques. En effet, c'est devenu coûteux, comme le disait Alice Rebaud à l'instant, de sortir. C'est devenu coûteux de passer une soirée le vendredi soir ou le samedi soir dans un espace public par définition, et donc par définition moins coûteux de faire la fête à la maison. Et donc en effet, l'élément financier, l'élément économique, et donc l'élément de regard en fait d'autrui vis-à-vis de nos moyens, qui sont évidemment totalement inégaux en fonction de votre condition sociale, joue en effet plein pot dans votre capacité ou non à créer des liens.
François-Mickey Marty.
Oui, il y a l'aspect en effet financier, puis il y a l'aspect quasiment société de marché qui est considéré souvent comme handicapante. On a rencontré, pour nous donner une anecdote, une étudiante à Paris qui nous a dit « mais on est dans une société du jetable ». C'est un peu l'idée de la société fluide. C'est-à-dire, et elle a dit, je cite, « au travail on nous prend, on nous jette ». En amitié, on nous prend, on nous jette, et en amour, on nous prend, on nous jette. Et elle a fini par cette phrase qui est restée gravée dans ma mémoire, en disant « j'ai l'impression dans cette société d'être un objet posé sur un linéaire que les gens prennent les doigts ». Et donc c'est quelque chose qui est terrible, c'est-à-dire qu'on se dit qu'au fond, là, ce que ça raconte, c'est la manière même dont la société est constituée, qui, elle rêve d'amitié, cette personne, mais elle a le sentiment que le monde dans lequel elle vit ne le permet pas toujours.
Alice Rebaud.
Oui, d'ailleurs, on nous apprend assez peu, je trouve, à entretenir, à prendre soin de nos amitiés. Ouais. On a, par exemple, pléthore de psy pour faire des thérapies conjugales, mais aucun psy de l'amitié, ou très peu, comme si voilà, c'était un lien qui ne méritait pas de, qu'on travaille, qu'on en prenne soin, quand parfois on le répare quand ça ne fonctionne pas bien. Comme si voilà, on pouvait se dire, bah, c'est un lien, tant pis s'il se délite, on va le laisser, quitte pour certaines personnes, par exemple, même à rentrer dans des dynamiques de ghosting, c'est-à-dire de disparaître un petit peu de la vie des personnes et puis de ne plus répondre aux messages, ce qui crée beaucoup de douleur, hein, les ruptures amicales. On en parle très très peu, à la fois dans les fictions et puis dans nos discours publics, mais en fait c'est des ruptures qui peuvent créer des douleurs immenses, parfois même plus importantes que des ruptures amoureuses.
Et Charlotte va dans votre sens, Alice Rebaud, Charlotte qui nous écrit: le deuil amical est souvent d'ailleurs bien plus violent que le deuil amoureux, mais étonnamment jamais raconté dans la littérature ou le cinéma, ou alors très peu. Olivia Benhamou.
Oui, non, c'était juste pour préciser que dans les thérapies systémiques, c'est-à-dire on s'intéresse au système relationnel, on s'occupe des patients à titre individuel, mais on explore évidemment les génogrammes, c'est-à-dire les arbres généalogiques, les liens familiaux, mais aussi les constellations amicales. C'est extrêmement important, et en effet, je rejoins Alice Rebaud, pour comprendre comment fonctionne un individu et voilà, la place de ses relations dans sa vie.
Alice Rebaud, vous parliez tout à l'heure du temps, c'est très intéressant. Dans Courrier International, Sarah Day, qui est journaliste à The Atlantic, raconte avoir vu ses relations se réduire comme peau de chagrin. Et je la cite: « Le plus difficile quand on est adulte, c'est de caler le bon moment pour voir ses amis. Le jeudi ne convient pas à l'un et le samedi à l'autre. On se dit qu'on va attendre quelques semaines et puis ce jour n'arrive jamais. Vos amis oublient de vous relancer ou alors c'est vous. » Cette question du temps, elle est fondamentale, hein, François Miquet.
Exactement. Et on a des témoignages là-dessus, en effet, de gens qui disent, et c'est exactement ce que vous dites. On se dit qu'on se reverra et puis on ne se revoit pas. Voilà. Et la suite, c'est que beaucoup de gens que l'on a écoutés disent, mais c'est après très difficile de retisser des liens. C'est-à-dire, quand on se dit, au fond, c'est pas très grave, on s'est pas vu, et puis le temps passe, et voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'ensuite? Et alors, si en plus on a un mauvais souvenir, etc., la reconstruction du lien. C'est peut-être ça aussi que ça peut être si douloureux, l'amitié perdue, parce qu'on se dit que reconstruire quelque chose derrière, ça prend du temps, c'est pas facile, et c'est très exigeant en termes de preuves et de relations.
Jérémy Pelletier.
Il y a un élément aussi qui est beaucoup revenu dans l'étude, dans la difficulté aussi à se faire des amis ou à perpétuer des amitiés aujourd'hui, c'est finalement. Dans la société dans laquelle on est, il y a beaucoup de ruptures de lieu d'habitation, de ruptures professionnelles, c'est-à-dire qu'on change beaucoup plus qu'avant. En effet, en fonction des études que vous allez faire, en fonction de la vie familiale que vous allez décider d'avoir, en fonction du lieu d'habitation que vous allez décider d'avoir, beaucoup nous disent ça, c'est venu en effet casser, rompre des amitiés, parce que par définition, les amitiés d'enfance, les amitiés d'adolescence reposaient sur le fait qu'on partageait un même territoire, reposaient sur le fait qu'on partageait une même ville, un même village, un même quartier, etc. Et ça, en effet, dans l'époque un peu bougiste dans laquelle on est, où il y a un certain nombre de ces ruptures professionnelles, familiales, universitaires, scolaires et co. Ça rend plus difficile aussi, nous disent les gens, de se faire des amitiés sur le long terme par rapport à il y a peut-être 20, 30 ou 40 ans.
Julien Bisson.
Oui, le plus gros mensonge de l'histoire de la télévision, c'est la série Friends et le fait qu'ils soient tous capables de prendre leur petit déjeuner tous les matins ensemble. Et en même temps, c'est assez intéressant de parler de Friends comme ça, parce que ça a été quand même une série emblématique de cette aspiration à passer du temps avec ses amis, à pouvoir être là dans tous les moments importants de nos existences, et à pouvoir justement avoir à la fois ces lieux et ce temps pour pouvoir construire ses amitiés et arriver à vraiment s'épanouir à l'intérieur de celle-ci.
Olivia Benhamou.
Oui, je suis d'accord, et je trouve que les jeunes générations redécouvrent aujourd'hui cette série, mais qui donne quand même une vision extrêmement idéalisée de l'amitié. Et je rencontre aussi beaucoup de jeunes adultes qui sont dans cette période de vie où justement ils terminent leurs études, certains d'entre eux commencent à se mettre en couple, certains commencent à envisager d'avoir des enfants, changent de ville, etc. Et c'est très douloureux pour, je sais pas, la tranche 25-30 ans, très souvent, de se dire, mais c'est fini, quoi, on va plus vivre tout ce qu'on vivait avant, tous ces moments où on se retrouvait, effectivement. Et donc, il y a vraiment un peu le deuil d'un idéal aussi.
Alors, la bonne nouvelle, pour être un peu positive, dans son article de The Atlantic, Sarah Day s'impose des moments pour voir ses amis une fois par semaine. Mmh. C'est ritualisé. Et peut-être que l'une des solutions, c'est de vraiment ritualiser, ça peut être l'apéro du jeudi, de se dire, voilà, on n'y déroge pas, ça peut être le brunch du dimanche, ça peut être je ne sais quoi, vous inventez ce que vous voulez, mais de s'imposer chaque semaine de voir les amis qui comptent pour vous, le fameux cercle des cinq amis s'imposer. Alors évidemment, si vous habitez en Lozère et que votre ami habite à Brest, c'est un peu compliqué, mais si vous êtes dans la même ville, je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table.
Oui, absolument. Il faut parvenir, je pense, à se discipliner. Il faut parvenir à, et vous avez évoqué la notion, à ritualiser de nouveau, de toute façon, une partie de nos vies qui ont perdu, en fait, petit à petit, des rituels, des rites, notamment dû au bougisme que j'évoquais à l'instant. Donc, en effet, remettre l'amitié dans une forme de rite, en effet, de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, et un élément déjà extrêmement rassurant dans l'époque dans laquelle on est, et par ailleurs, qui permet sans doute de protéger et de sauver des amitiés.
Des rites et de la présence corporelle. On cite à nouveau l'anthropologue Robin Dunbar, parce que c'est quand même le grand anthropologue de l'amitié. Il est important de déclencher des endorphines, vous savez, ces hormones du plaisir, quand on voit ses amis. Et ces hormones, on les déclenche comment? Il le dit très bien dans le papier, c'est rire ensemble, danser, chanter, participer à un rituel religieux, manger, boire de l'alcool avec modération, se raconter des histoires à forte charge émotionnelle. C'est tellement important, Julien Bisson.
Oui, c'est très 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 important. Aristote disait qu'il fallait, pour que les amitiés soient profondes, qu'il fallait avoir partagé un boisseau de sel. Un boisseau de sel, c'est plusieurs kilos. C'est-à-dire qu'il fallait avoir mangé plusieurs kilos de sel ensemble et donc avoir éprouvé aussi ces amitiés sur le temps. Mais oui, bien sûr, il y a évidemment une question, mais presque très biologique dans ces amitiés. Robin Dunbar, il étudie aussi les primates. Et donc, il voit comment est-ce que chez les primates, il y a un temps très important passé à s'épouiller. Et ça a une fonction sociale très importante. C'est pas simplement s'épouiller et s'enlever l'époux. C'est aussi prendre soin des autres et arriver à créer des liens très forts. Et je dis pas qu'il faut qu'on aille s'épouiller entre amis, mais le côté présent, le côté tactile, la présence physique avec
ça
ses amis.
Ça passe, je l'ai dit, aussi, par la danse, par le rire, par partager un bon repas, un verre d'alcool.
On prévoit, comme ça se fait beaucoup, des voyages une fois par an, le week-end entre copines. Bon, après, ça dépend des générations, des moyens, des possibilités et du moment de la vie, parce que quand on,
Mais c'est vrai que vous le dites dans votre livre Alice Rebaud, en réalité, nous vivons tout de même dans une société où tout joue contre nos amitiés. Hein ?
Oui, absolument. En fait, il faut être très créatif parce que effectivement, la société ne nous propose aucun rite. C'est vraiment l'amitié, c'est vraiment ce lien social qui n'est entouré par aucun rite, auquel on ne propose aucune place en fait finalement dans notre société. Donc il faut tout inventer et face à cette grande solitude dont on parlait, à ces difficultés de plus en plus grandes, à ce désert aussi parfois de la trentaine qui fait très peur. Moi, j'ai observé qu'il y avait un phénomène qui s'organise, qui gagne en ampleur, notamment au sein des jeunes générations, avec une envie vraiment très forte de revaloriser une pluralité plus grande de liens autour de soi, de donner davantage de place aux amitiés. Et moi, j'ai rencontré des amis qui ensemble réinventent des manières d'habiter, de consommer, de militer, d'élever des enfants aussi, parfois aussi d'organiser leurs vieux jours, avec cette idée que il faut se retrousser les manches. C'est vraiment pas simple parce qu'aucun patron, aucun modèle n'est présenté, mais on va inventer ses propres modèles pour ne plus faire de l'amitié une simple salle d'attente.
Allez, il est 10h41, l'heure de retrouver les Français mode d'emploi de Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès.
Regardez Salomon, regardez.
Grand bien vous fasse.
C'est net, c'est silencieux, y a pas de fumée, c'est en français.
Ali Rebéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde? Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
Alors, mon cher Jérémy Pelletier, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau qui aura lieu samedi, vous nous parlez ce matin du rapport qu'entretiennent les Français avec les petites bouteilles d'eau. Sujet original, dites-moi pour votre retour parmi nous.
Et oui, sujet original. Je sais, mon cher Ali, que vous préférez quand je vous parle de la consommation d'alcool, de bière et de vin des Français. Eh bien, ce matin, j'ai décidé au contraire de vous parler des petites bouteilles d'eau qui accompagnent en effet nos Français chéris dans leur vie de tous les jours. Pourquoi parler de ce sujet? Car il y a un paradoxe. Notre pays dispose, comme vous le savez sans doute, d'un très solide réseau d'eau potable parfaitement consommable. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, la France est l'un des pays où l'on consomme le plus d'eau en bouteille dans le monde. Je vous donne ce chiffre que vous connaissez peut-être pas, 135 litres par an par Français en moyenne de consommation de petites bouteilles d'eau. Alors que les enjeux écologiques occupent pourtant le haut des préoccupations de la population, et alors que des scandales aussi ont touché récemment des industriels des eaux en bouteille quant au non-respect de certaines réglementations, comment en fait expliquer ce paradoxe ? Alors dans une étude à paraître demain sur le site de la Fondation Jean Jaurès, Raphaël Yorca, qui dirige notre observatoire marque imaginaire de la consommation et politique de la Fondation Jean Jaurès, a mené l'enquête. Quelques points. On découvre d'abord que la consommation d'eau en bouteille, elle est massive en France. 86% de la population française dit boire de l'eau en bouteille. Et encore plus fort, plus de la moitié des Français, 52%, dit boire de l'eau en bouteille tous les jours ou presque, et près des trois quarts, 72%, disent en consommer au moins une fois par semaine, ce qui est considérable. On se rend compte également que les Français connaissent extrêmement bien les marques des eaux en bouteille, qu'elles font véritablement partie de leur quotidien, comme nous dit Yorca. En moyenne, les Français connaissent 10 marques d'eau minérale quand on les interroge sur ces marques-là. Et certaines marques d'eau en bouteille sont même connues par la quasi-totalité de la population. Petite question pour tout le monde sur le plateau. À votre avis, c'est quoi les marques d'eau en bouteille ? On peut intégrer évidemment l'eau gazeuse aussi dans cette question. Les plus connues par les Français. C'est quoi les marques d'eau en bouteille et eau gazeuse les plus connues des Français ?
Evian, Vittel.
Oui, j'allais dire Evian ou Vittel.
Perrier, Badois.
François, vous ne jouez pas.
Non, pas du tout. Ça, c'est pas drôle.
Jamais d'eau.
Jamais d'eau.
Alors, en effet, Evian, première marque connue des Français quand on les interroge sur le sujet. 93% connaissent la marque Evian. Vous avez cité Vittel, c'est la marque qui apparaît en troisième, 89%. Il y a Cristaline, eau extrêmement populaire, qui apparaît en deuxième, 91% des Français qui la citent. Il y a Perrier également, qui apparaît assez haut, et la marque Volvic. Donc, grosse notoriété, en effet, des marques d'eau en bouteille qui font partie du quotidien des Français.
Mais Jérémy, est-ce qu'on note quand même des différences dans la consommation d'eau en bouteille chez les Français ? Est-ce qu'il y a des Français qui en boivent plus que d'autres ?
Alors absolument, cher Ali, c'est ça qui est intéressant dans l'étude de Raphaël Yorca. D'abord, la consommation d'eau en bouteille, en fait, elle est liée à la façon dont vous avez été élevé. En gros, si vous avez eu l'habitude de boire de l'eau en bouteille avec vos parents quand vous étiez enfant, vous avez beaucoup plus de chances, selon l'étude qu'on a réalisée, pour en boire ensuite plus vieux. Donc il y a une question de filiation, il y a une question en effet d'apprentissage qui fait que si vous en avez bu avec vos parents lorsque vous étiez jeune, vous avez beaucoup de chances d'en reboire après. Deuxièmement, de façon assez logique, plus vous êtes défiant vis-à-vis de l'eau du robinet et plus vous avez de chances de boire de l'eau en bouteille. Dans l'étude, parmi ceux qui disent boire de l'eau en bouteille, tous les jours ou presque, le taux de défiant à l'endroit de l'eau du robinet atteint 79%. À l'inverse, parmi ceux qui ne consomment jamais ou presque d'eau en bouteille, le taux de défiance vis-à-vis de l'eau du robinet chute à 22%. Donc il y a une corrélation évidemment entre confiance, défiance vis-à-vis de l'eau du robinet et consommation de l'eau en bouteille. Enfin, et c'est pour moi l'un des éléments les plus intéressants de l'étude, il y a un vrai clivage social et sociologique dans la consommation de l'eau en bouteille. D'après l'étude, ce sont avant tout les catégories populaires qui consomment le plus d'eau en bouteille. 50% des catégories supérieures en consomment tous les jours ou presque, contre 56% des employés et 58% des ouvriers, malgré le prix des eaux en bouteille. On va en parler dans quelques instants. Donc l'eau en bouteille est donc d'abord avant tout un produit consommé par les classes populaires, ce qui peut sembler dingue quand on sait qu'une bouteille d'eau minérale de 1,5 litre vendue en grande distribution coûte en moyenne un peu plus de 50 centimes. Pour une famille de 4 personnes, le budget annuel de consommation d'eau minérale atteint donc une fourchette comprise entre 500 et 900 euros. Et malgré tout, il y a ce clivage sociologique qu'on observe. Donc vous voyez, l'eau en bouteille, en fait, c'est un vrai sujet politique, c'est un vrai objet, en effet, sociologique qui mérite qu'on s'y attarde, notamment, évidemment, pour les considérations écologiques que tout cela renvoie.
Tout ce qu'on peut dire sur une bouteille d'eau, et on peut retrouver cette étude de Raphaël Yorca sur le site de la Fondation Jean Jaurès.
À partir de demain. On est venu ici pour en faire un petit teasing, comme souvent.
fondationjeanjaurès.org. Alors, avant de poursuivre notre émission consacrée à l'amitié, j'aimerais relayer la pétition de nos amis de 60 millions de consommateurs avec Lionel Mauguin. Bonjour Lionel Mauguin.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs. Alors, vous vous élevez et nous sommes avec vous, à Grand Main Vous Fasse, parce que nous sommes partenaires depuis longtemps de vos études et de nombreux médias également. Vous vous élevez contre la privatisation aberrante de votre magazine, 60 millions de consommateurs, un magazine sans publicité, un magazine édité par l'Institut National de la Consommation. Expliquez-nous ce qui se passe en quelques mots, Lionel Mauguin.
En quelques mots, le gouvernement Barnier avait décidé de mettre en vente le journal, puisque, comme vous l'avez rappelé, c'est édité par un Institut national de la consommation, donc c'est public. Ça avait suscité la stupéfaction, parce que juste avant, avec la ministre Olivia Grégoire, on avait au contraire un plan de relance du titre. Donc, il y a eu une mobilisation qui a fait que aujourd'hui, je peux vous annoncer que la vente n'est plus certaine, grâce à la pétition dont vous avez parlé, grâce aux relais médiatiques, effectivement, qui sont très importants, grâce aux relais politiques aussi. Tout le monde s'est un peu indigné sur le projet, alors qu'on avait un projet de retour à l'équilibre sur la table qui avait été adopté. Et donc aujourd'hui, il y a eu une manifestation aussi vendredi dernier devant les locaux de la DCRF où se tenait un conseil d'administration qui devait statuer sur le sort de 60. Et donc aujourd'hui, on repart un petit peu à zéro, c'est-à-dire que tous les scénarios sont sur la table et nous, on va s'efforcer de défendre la continuité de 60 millions au sein de l'INC.
Et est-ce que nos auditrices et nos auditeurs peuvent continuer à signer cette pétition contre la privatisation de 60 millions de consommateurs? C'est encore possible?
Oui, tout à fait, elle est toujours en ligne. D'ailleurs, je remercie aussi la plateforme change.org qui nous a beaucoup aidé à populariser cette pétition. Et d'ailleurs, la signature de 100 000 personnes a déjà été remise à la ministre du Commerce officiellement mardi dernier lorsqu'on l'a rencontrée. Et tout ça porte ses fruits puisque le gouvernement est revenu en arrière.
Je signe cette pétition, auditeur de Grand Bain vous fasse, si vous êtes attaché à l'indépendance de 60 millions de consommateurs qui œuvrent pour les consommateurs. N'hésitez pas à signer cette pétition sur change.org. On la trouve évidemment sur le site de 60 millions de consommateurs et on va la mettre également sur le site de Grand Bain vous fasse. Merci beaucoup Lionel Mauguin et à bientôt dans cette émission.
Vous,
oui. Ali Rebéi, comment tu peux être ami avec ce mec?
Grand Bain vous fasse.
Amitié de jeunesse. Et puis on peut être ami et pas être d'accord sur tout.
Je comprends pas.
L'amitié a ses raisons que la raison ignore.
Sur France Inter.
À quoi ressemble l'amitié en 2025? C'est notre thème ce matin avec la complicité du 1 hebdo. Explorons la porosité entre l'amour, l'amitié et la sexualité.
C'est comme jouer au tennis. Deux personnes devraient pouvoir baiser comme elles jouent au tennis.
Mais oui, puisque personne n'a envie de partir au week-end après avoir fait un tennis.
Ce n'est qu'un jeu. Après, on se serre la main et chacun retourne à sa vie.
Ouais.
Ouais. Jamie.
Ouais.
On se fait un tennis?
Quoi?
Couchons ensemble comme si on jouait au tennis.
Arrête tes conneries.
Mais ris pas. Ça pourrait être bien, ça enlèverait justement toute ambiguïté.
On en a déjà parlé, je t'aime pas de cette façon-là.
Je t'aime pas non plus de cette façon-là, c'est pour ça que c'est parfait.
Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, si je te trouve attirant?
Elle est mignonne.
Tu me promets que tu veux de moi rien de plus que du sexe?
Tu me jures que tu veux rien de plus de moi?
Ni relation, ni sentiment, que du sexe.
Et quoi qu'il se passe, on reste amis.
Juré?
Juré, juré.
Extrait du film Sexe entre amis en 2011. Alors, on l'a dit, le contact physique est important dans l'amitié. Parfois, ce contact physique avec des amis peut se transformer en relation sexuelle. Olivia Benamou, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Les frontières avec la sexualité commencent à se brouiller, notamment dans les jeunes générations. Ou est-ce que c'est une vue de l'esprit, Olivia Benamou?
Alors, je ne sais pas si ça commence à se brouiller, mais je pense qu'il y a là une forme de créativité dans la manière de nommer, en tout cas, les relations que nous, effectivement, la jeune génération, les uns avec les autres. Et
parce
les
que
mots,
pendant longtemps, je vous interromps, oui. Pardonnez-moi, pendant longtemps, ces deux types de relations, l'amitié et la sexualité, c'était bien distinct.
Oui, très probablement, effectivement. Mais en effet, je pense que aujourd'hui, là, il y a une étude qui paraît aujourd'hui dirigée par Marie Bergström sur qui a été menée une grande enquête avec l'INED sur 10 000 jeunes de 18 à 29 ans, il me semble. Et moi-même, dans mon guide, il y a 3 ans, j'écrivais déjà un chapitre sur les sex friends. Et de toute façon, ça
se vérifie. Sex friends, c'est les amis de sexe.
Voilà, c'est ça. Donc justement, les sex friends, le fameux ami sexuel. Friend with benefits, donc ami avec un plus, mais il y a aussi plein d'autres expressions hein, pour sex friend, amitié améliorée, amitié intime, ami mour, copain de lit, ami avec affinité, plan cœur, relation câlin, relation libre.
Plan cul régulier.
Plan cul régulier.
C'est pas ça, non?
Il n'y a pas
de l'amitié parfois dedans?
Il peut y en avoir. De toute façon, mais même quand on est en couple, souvent quand on reçoit des couples, ils vous disent que leur partenaire, c'est leur meilleur ami en fait. Donc, par nature, à partir du moment où il y a un lien d'attachement, tout ça est extrêmement poreux.
Comment expliquer justement, c'est très intéressant, ce brouillage, cette porosité des frontières entre amitié et sexualité? Comment ça s'explique?
Alors, s'expliquer, je ne sais pas. Moi, j'ai quelques hypothèses, parce que donc, on peut considérer que le fameux sex friend, il occupe une position intermédiaire, c'est ce que disent les sociologues, dans le continuum allant du couple au coudin soir. Entre les deux, effectivement, ce sont des êtres humains qui se parlent et qui se confient à leurs amis sur ce qu'ils vivent, sur ces expériences, et il y a aussi une forme de consolation apportée par les relations amicales, et parfois, la sexualité va s'inviter dans cette relation d'amitié. Alors, pour plein de raisons différentes, mais aussi, et c'est ce que j'entends énormément en consultation avec les jeunes, parce que le modèle du couple avec la relation amoureuse traditionnelle génère énormément d'anxiété, en fait. D'anxiété d'abandon. Beaucoup de jeunes me disent « Moi, j'ai peur d'être dépendant, je ne veux pas sacrifier ma liberté. » Et donc, en revanche, mon meilleur ami, finalement, c'est peut-être la meilleure personne avec qui je vais pouvoir d'abord expérimenter ce que c'est que d'avoir un rapport sexuel, parce qu'on se connaît bien, j'ai confiance en lui, je sais qu'il ne va pas me ghoster du jour au lendemain. Donc finalement, l'amitié offre un cadre un peu sécure pour vivre des expériences sexuelles en début de vie adulte. Et je pense que cette nouvelle façon d'être en relation, c'est aussi c'est un peu une tentative de solution pour échapper à ces angoisses, la peur de la solitude, la difficulté à faire confiance, la jalousie, la question de la fidélité, de l'exclusivité, qui sont toujours au cœur des interrogations des jeunes qui se rencontrent et qui veulent vivre des expériences avec d'autres, mais qui savent pas très bien sur quel mode, et qui cherchent un peu des garanties. Et l'ami, c'est quand même la sécurité.
Jérémy Pelletier.
Oui, je pense que ça a vocation à se développer, à progresser dans les années à venir. En effet, parce que, pour revenir en effet à ce que disait Olivia à l'instant sur les couples, on sait, d'après les études, qu'on se rencontre beaucoup moins en ce moment, et notamment depuis la crise sanitaire, qu'il y a beaucoup moins de couples qui se forment, qu'il y a beaucoup moins de relations sentimentales qui se forment, parce qu'il y a un peu plus de défiance, parce que le Covid, en effet, a entraîné des modes de vie qui donnent, en tout cas, cette conséquence. Et l'une des conséquences, c'est la baisse de la natalité. Rarement on le dit, mais la baisse de natalité, c'est aussi lié à ça, aussi lié au fait qu'il y a moins de couples qu'avant et il y a moins de relations amoureuses qu'avant. Et donc, par définition, les rapports sexuels, si vous voulez en avoir, seront beaucoup plus avec vos amis qu'avec des couples que vous ne formez plus.
Julien Bisson, pour terminer.
Il y a aussi la dimension MeToo et ses suites qui ont changé les attentes vis-à-vis de la sexualité. Il y a une attente davantage de respect et peut-être que ça peut se retrouver davantage justement au sein des amis de gens qu'on connaît déjà plutôt que de rencontres d'un soir.
Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. François Miquet, Marty, on peut retrouver votre très belle enquête qualitative Les Nouvelles Amitiés sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Merci Alice Rebaud. Une lecture très intéressante, Nos puissantes amitiés, c'est publié à La Découverte. Merci beaucoup Olivia Benhamou. On peut toujours lire votre guide, recitez-le.
Petit guide d'entrée dans la vie sexuelle.
Il est toujours d'actualité. Merci Julien Bisson. Le très bon numéro du 1 Hebdo consacré à l'amitié, Qu'est-ce qui nous lie, est disponible en kiosque.
Un numéro à offrir à tous ses amis.
Exactement. Exactement.
Grand bien vous fasse. Un podcast France Inter.